que la reine a organisé pour le roi et pour toi. Donc il va y avoir où. Ils l'ont pas laissé, il est complètement de boule balle. C'est-à-dire, c'est ça qu'on veut dire quand on dit Bibilou. Bibilou, ça veut dire, ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, elle était dans la Berala, dans la presse. Il y avait une presse qui était là pour plusieurs raisons, en particulier que Paro faisait pression sur l'Ebné Israël pour que l'Ebné Israël s'en aille. Parce que tant qu'il y avait l'Ebné Israël, il y avait des morts chez les Égyptiens. On est dans le cadre de Khorot. Il en pouvait plus. Ouais, donc il disait, partez, 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 dépêchez-vous de partir. Et Moshe Rabbeinu lui a dit, non, mais nous on n'est pas pressé, on va pas partir comme des voleurs, on va pas partir au milieu de la nuit, on partira quand il fera jour. Mais lui, il presse, partez, allez-vous-en. Ça, c'est la Béhala de Pessah. Et ça correspond à cette royauté mevohelet, effectivement, de la presse. Ça, c'est Paras. C'est les Perses. Crocher, ça correspond au Galout de Yavan, à la Grèce. Le paradoxe, les Juifs, ils considèrent que la Grèce, lorsqu'elle est, elle est l'oppresseur d'un Israël, la Grèce, que tout le monde considère comme la lumière, pour nous, on considère que c'est l'obscurité la plus totale, parce que les décrets qu'ils ont pris contre nous, c'était des décrets qui ont obscurci complètement la vue des Bnei Israël. Les Bnei Israël n'y voyaient plus clair du tout. Et puis, le Terum, l'abîme, c'est le Galout de Edom. C'est Edom, ça va ensemble. C'est dans Edom, il y a Ishmael et Esav. Parce qu'Ishmael, c'est le beau-père d'Esav. Alors, c'est Esav qui est considéré comme le leader. C'est pas son beau-père, mais le beau-père, il est là aussi avec son gendre. Donc, c'est eux. La lutte de Edom contient aussi la composante Ishmael. Mitzrayim, d'après ce qu'on vient de voir, c'est la couronne de toute cette construction du mal. D'un autre côté, chez Daniel, dans la fameuse vision de Daniel, pour lui, il dit sur Babel, que Babel c'était la tête d'or. Une tête en or, c'est Babel. Babel était quasiment à la tête, le roche. Et le Harizal, il dit qu'on a là une forme humaine, parce que les deux bras de cette forme humaine, c'est Paras et Madaï, c'est les Perses et les Mèdes. Le corps lui-même, c'est la Grèce. Et les jambes sont justement Ishmael et Esav. C'est ça, la construction, si vous voulez, complète de l'ensemble des royaumes qui ont réduit les Bnei Israël en esclavage. Donc, les royaumes chez lesquels nous sommes en esclavage. Chez lesquels n'est pas tout à fait correct, parce que, comme vous le savez bien, celui qu'on appelle le Galout de Yavan, le Galout grec, il n'a pas lieu en dehors d'Israël. Le Galout de Grèce, c'est la domination de la civilisation grecque. Les Bnei Israël sont sur leur terre. Les Bnei Israël ont le Beth Amikdash. Mais néanmoins, ils sont en Galout parce que les valeurs grecques ont envahi complètement la société juive, en fait. Les Grecs ne s'opposent pas à ce que Israël est un temple. Vous voulez un temple? Ben voilà, c'est très bien. Mais faites de ce temple, faites-le sur le modèle d'un temple grec. avec des images, avec des, enfin tout c'est ce qu'ils ont fait effectivement. L'establishment à ce moment-là, il a transformé le Beth Amikdash en un temple grec. Les prêtres, ce doivent être des gens aussi qui, bon, ils font ce qu'ils doivent faire, puis ensuite ils vont aller courir nus dans le stade, etc., avec les valeurs grecques. Et ça s'appelle un galout. Ça veut dire que la traduction de galout en disant par le mot exil, elle correspond pas vraiment à quelque chose à l'étymologie du mot exil. On n'est pas exilé, on n'est pas à l'extérieur, on est à l'intérieur. Le galout, c'est quelque chose de spécial. Et on n'est pas nous-mêmes en quelque sorte. Alors des fois on n'est pas soi-même parce qu'on est pas dans un environnement hostile, mais les gens qui c'est nous qui ne sommes pas chez nous. Et puis des fois on est chez nous mais l'environnement il est hostile parce que les autres sont venus, ils sont majoritaires ou assez puissants, ils ont converti à leurs idées une grande partie du peuple, point que bon la révolte contre les Grecs à Hanouka, comme vous savez, c'est une famille qui se révolte, c'est tout. Donc, au-dessus de tout cela, il y a Mitzrayim. Mitzrayim est au-dessus de la tête. Il est cette couronne. C'est-à-dire qu'il y a un couronnement de toute cette construction qui est faite par les différents exils, et le couronnement c'est l'Égypte. Mais, je répète, pour nous, la notion de couronnement, la couronne, c'est une origine, c'est une source. C'est pas quelque chose qui viendrait et qui serait extérieur à ce qu'elle couronne. La couronne couronne, mais elle est source, elle en est la source. Si vous voulez, il y a une forme d'immanence en quelque sorte. Mais puisqu'on parle de Galout Mitzrayim, nous, ici, alors il faut prêter attention et se demander qu'est-ce que c'est que ce mal-là? Qu'est-ce que c'est que cette couronne du mal? À tel point une couronne que tout le reste est en conséquence de cette couronne, en quelque sorte. On a un anti-homme, le contraire de l'homme, qui s'oppose à l'homme, qui est une couronne de ça, qui est le super anti-homme. Ça, c'est Mitzrayim. Alors, quand la Torah commence sérieusement à nous parler de la réaction d'Ebné Israël, le commencement de la démarche de la sortie d'Égypte, début de Parchat Vaera, c'est Hachem qui parle et il dit à Moshe Rabbeinu, il lui parle et vous vous souvenez, il lui parle à un moment bien précis. Hachem a envoyé Moshe Rabbeinu chez Paro pour ordonner à Paro de laisser partir l'Ebné Israël pour qu'ils viennent servir Hachem. Paro n'a pas accepté. Et au contraire, Paro a dit, si vous pouvez penser à aller servir Hachem, vous allez que vous êtes encore capable de penser, bien il faut vous abrutir encore un peu plus. Et pour vous abrutir encore un peu plus, vous êtes des fabricants de briques, mais pour fabriquer les briques, je vous donne le secret, hein, on a besoin de paille. Et la paille, elle leur était normalement fournie. Mais Pharao dit, on vous fournira plus la paille. Débrouillez-vous. Vous devrez fournir la même quantité de briques, mais la paille, il faudra la trouver vous-même. Et ça, ça a mis les Bnei Israël dans un état, si vous voulez, extrêmement douloureux, difficile à supporter parce que l'Ebné Israël n'avait pas la possibilité de fournir la quantité de briques s'il fallait aussi aller chercher la paille. Ce qui leur était demandé était impossible. Ils ne pouvaient pas garantir les quotas qu'ils étaient censés produire. Alors, j'avais expliqué on avait expliqué dans le chiour de Chumash que les Bnei Israël étaient regroupés, ils avaient des chefs, des gens qui les dirigeaient, des juifs, les dirigeaient, et qui étaient eux les interlocuteurs des capots égyptiens, en fait. Alors, quand les juifs ne fournissaient pas la quantité exigée de briques, alors les égyptiens ne s'adressaient pas au peuple, ils s'adressaient aux responsables. Et les responsables étaient punis. Ils étaient frappés, ils étaient frères, ils étaient punis. Et là-bas, je vous rapporte ça parce que ça va être important pour la suite. Les responsables ont compris que cette aggravation de la situation, c'était en fait l'annonce de la libération. Ils ont compris que ce qui se passait là, c'est un peu comme ce qui se passe au moment du lever du soleil. Juste avant le lever du soleil, il y a une obscurité plus profonde. Il y a un moment qui est plus noir avant que... Donc, ils ont compris qu'ils étaient entrés maintenant dans le moment plus noir. Et donc, c'était un très mauvais moment à passer. Mais on allait en sortir vers la lumière. Alors, ils ont dit, nous, on a compris ça. Mais le peuple, il ne le comprend pas. Donc, si maintenant... on laisse la colère tomber sur le peuple, il va rien comprendre à ce qui lui arrive. Donc, ils se sont laissés punir, eux, pour protéger le peuple. Et parce qu'ils ont eu cette démarche-là, lorsque Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem de répartir son pouvoir, en quelque sorte, et qu'Hachem a dit qu'on allait désigner 70 personnes, etc., qui allaient intermédiaire qui allait aider Moshe Rabbeinu, ce sont ces gens-là qui ont été choisis. Parce que ces gens-là, ils avaient fait preuve d'empathie et de responsabilité. Donc, ces gens-là, ils ont été choisis comme des assistants de Moshe Rabbeinu. Je referme la parenthèse. Donc, les Bnei Israël sont dans une situation où ils n'en peuvent plus à ce moment-là. Et Moshe Rabbeinu ne le supporte pas. Et Moshe Rabbeinu va se tourner vers Hachem et il va lui dire « Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé ?» Tu m'as envoyé et à la suite de mon intervention, la situation s'est aggravée et toi, tu n'as pas sauvé les Bnei Israël. Donc, c'est vraiment une accusation quasiment de la part de Moshe Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu a mal pris la chose et c'est là que nous en sommes. Début de cette parasha de Vaera, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, voilà, Vaera el Abraham el Yitzhak el Yaakov, je me suis donné à voir à Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais je me suis donné à voir avec un certain nom divin, le nom divin qui s'appelle Kel Shakai, le dieu Shin Daled Yud. Ce nom divin-là, c'est le nom qui correspond, si vous voulez, à ce que Hachem peut bouleverser l'ordre du monde. Il fait des promesses, mais c'est pas le moment, c'est pas le nom divin sous lequel les promesses vont se réaliser. Alors Hachem dit, les Avot, j'aurais fait des promesses, ils n'ont jamais vu le commencement du début de la réalisation des promesses et ils n'ont jamais protesté. Et toi, je t'ai dit qu'on est dans la phase de réalisation des promesses et parce que ça ne se déroule pas comme toi tu penses que ça doit se dérouler, tu viens et tu me fais des reproches. Alors, Hachem a dit à Moshe, tu vas voir, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Paro. Et nos maîtres ont entendu. Maintenant tu vas voir, ils ont entendu, maintenant tu vas voir, mais il y a autre chose que tu ne verras pas. Hachem a dit, ce que tu ne verras pas, c'est la manifestation de ma puissance au moment où les Bnei Israël vont avoir à lutter contre les 31 rois, c'est-à-dire au moment de la conquête des restes d'Israël. Hachem va faire des miracles, etc. Et ça, dit Hachem à Moshe Rabbeinu, ça tu ne le verras pas. Donc, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu vient de perdre, si on peut parler comme ça, la possibilité d'entrer en Eretz Israël. Parce qu'il a réagi défendre les Bnei Israël, parce qu'il supportait pas la douleur des Bnei Israël, et qu'il l'a exprimé de cette manière-là, il a perdu le droit d'entrer en Eretz Israël. Voilà, on en est là. Mais Hachem a continué, et il a dit, « Ushmi Hachem, l'onodatilah. » Mais mon nom tétragramme, Yudke Vavke, ce nom-là, je ne l'aurais pas fait connaître. Si on peut dire, je ne me suis pas dévoilé pour eux dans ma vraie dimension, si on peut parler comme ça. Le nom tétragramme, Yudke Vavke, c'est le plus haut des noms. C'est-à-dire, j'ai fait des promesses, mais je les ai pas encore réalisées. Ça, c'était Kel Shakai. La vraie mesure, le vrai nom, si on peut parler comme ça, de l'Hachem, ils n'ont pas eu le mérite de le vivre, en fait. Et c'est ce nom-là que l'Hachem veut nous donner, enfin, voulu nous donner au moment de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, au moment de la sortie d'Égypte, on est dans la phase d'accomplissement des promesses. Les promesses se réalisent. Les promesses qui ont été faites déjà au Avot. Les promesses se réalisent maintenant, dans la phase de sortie d'Égypte. Veut dire que ce nom divin-là, il apparaît dans le monde. Il était déjà là, bien sûr, mais il apparaît reconnu dans le monde, en tout cas par les Bnei Israël, peut-être même à un certain moment par les Égyptiens. Il apparaît dans le monde au moment de la sortie d'Égypte. Donc on pourrait dire que ce nom-là, ce nom divin-là, il est... Son apparition est concomitante avec la sortie d'Égypte, avec la libération. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que d'une certaine manière, c'est cette sortie d'Égypte qui va mener au dévoilement de ce nom divin-là qu'on a pris l'habitude d'appeler Hachem Amefourach, le nom explicite. Ce nom-là, il arrive dans le monde, il débouche dans le monde, il est reconnu dans le monde, avec Geulat Mitzrayim, avec la libération de l'Égypte. D'accord? Pourquoi? Parce que cette libération, elle s'est faite avec ce nom-là. C'est ce que nous disons le soir de la Haggadah, on parle de la sortie d'Égypte. D'accord? On dit, voilà, vous êtes sorti d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle n'a pas eu lieu ni à l'aide des Malach, ni à l'aide des Saraf, ni à l'aide des Shaliach, ni par un Malach, ni par un... Donc, pas par un ange, pas par un séraphin, pas par un envoyé. On ne peut rabattre, si vous voulez, la sortie d'Égypte sur rien de connu. C'est pas la décolonisation. C'est pas le changement de dynastie. C'est pas dû à un tsunami. C'est pas dû à une révolution. C'est pas dû à tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pas dû à ça. C'est dû à Hachem. Donc, en d'autres termes, quand on dit c'est du Hachem, ça veut dire on ne peut pas savoir comment ça s'est déroulé. Parce que tout ce que tu imaginais, ça n'est pas ça. Il n'y a pas de processus descriptible. Voilà. Ça ne peut pas se décrire. Voilà. Alors, je vais vous donner peut-être une indication, donc, ce que je comprends un peu, penser à la chose suivante. La matzah qu'on mange le soir du Seder, elle correspond à quoi? Bien sûr, on pose la question. Matzah zush anur chlimal shumma. Pourquoi est-ce que nous mangeons cette matzah? Qu'est-ce qu'elle est censée nous rappeler? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, on mange cette matzah parce que nos ancêtres n'ont pas eu le temps de laisser monter la pâte pour en faire du pain. Pas laisser monter la pâte, ça veut dire on n'a pas laissé fermenter non plus la pâte. Parce que brusquement, Akadosh Baruch Hu est venu et dans la presse, il nous a fait sortir du chien. C'est clair? Cette béhala. Dans la béhala, on n'a pas eu le temps. Alors, c'est bien clair que cette raison-là, qui est la raison que nous disons, donc c'est une raison vraie, si vous voulez, mais elle est néanmoins incompréhensible. L'Ibn Israël savait pertinemment quand ils allaient sortir. Hachem a dit qu'il allait se manifester à Hatzot, à peu près à Hatzot. Donc il savait que, voilà, cette nuit-là, on va sortir. Alors fais du pain. Tu n'es pas obligé d'attendre la dernière minute. Fais du pain. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait du pain de telle sorte qu'il ait eu le temps, ce pain, de gonfler, etc. C'est parce que, en vérité, quand on a dit au Bnei Israël, quand Hachem a dit au Bnei Israël, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, il leur a dit on va sortir d'Égypte, ça voulait strictement rien dire. C'est des mots. Mais des mots n'ont un sens que si on a une représentation. Il n'y a aucune représentation. Ça fait 2 ans, 10 ans qu'ils sont esclaves en Égypte. Ils sont égyptiens. Leur monde, c'est l'Égypte. Leur environnement, c'est l'Égypte. Ils ont arrêté de faire la Mila pour ressembler plus aux Égyptiens. Donc, quand on leur dit, on va sortir d'Égypte. Personne n'est jamais sorti d'Égypte. Ils ont, sans permission. Ça veut dire, on va sortir d'Égypte. Donc, ils n'avaient pas de représentation. Donc, ça, ils pouvaient même pas faire du pain pour sortir. Si vous voulez, si on vous dit, on nous dit à nous, si on dit voilà, on va partir au pôle Nord ou au pôle Sud, peu importe. Alors, même si on n'a aucune idée des températures qu'il va faire là-bas, on va se dire, ok, quand je vais au sport d'hiver, je mets ma doudoune, j'achète une double doudoune, ou je vais faire une triple doudoune, ou bien il faut manger telle et telle chose, on va manger quelque chose avec plus de graisse ou plus de je sais pas quoi, quelque chose qui va nous rendre plus résistant. On a une petite idée, on peut se représenter imparfaitement, mais on peut se représenter. La sortie d'Égypte, ça ne se représentait pas du tout. Et voilà. Donc, d'une certaine manière, la vraie idée de la matzah, c'était l'impensable. C'était impensable. Sortir d'Égypte, c'était impensable. De la même manière, on a dit que Akadosh Baruch Hu, non pardon, que Avraham Avinu, il a fait le Korban Pessah aussi. Bon, nous, le Korban Pessah, on dit qu'on le fait al shumma, al shum shepassah, parce que Akadosh Baruch Hu a passé over, il a passé par-dessus les maisons des Bnei Israël, au sens où les Bechorot qui étaient dans les maisons des Bnei Israël et qui étaient les Bnei Israël n'ont pas été touchés. Mais les Bechorot égyptiens, même dans les maisons des Bnei Israël d'ailleurs, ont été tués. Là aussi, on nous dit, Avraham Avinu aussi l'a fait, le Korban Pessah. Bien entendu qu'Avraham Avinu n'a pas fait le Korban Pessah parce que Hachem a passé par-dessus les maisons. Ce qu'Abraham Avinu a fait, Korban Pessah pour lui représentait la proclamation que Hachem était Echad. Là, il s'agit, dans le Korban Pessah, il s'agit de tuer l'idole égyptienne. l'agneau en question, c'est une idole égyptienne, il y avait une dimension de provocation de l'Égypte. La Torah, elle dit que le 10 Nissan, on a pris un agneau, on l'a attaché au pied de son lit, en quelque sorte, et on l'a gardé comme ça 4 jours, parce que la halakha, elle est que quand on veut amener un korban, on choisit un korban qui n'a pas de défaut, mais on le met en observation pendant 4 jours. On voit, évidemment, pour être sûr que rien ne se développe de qui pourrait être un défaut, un boom, qui rendrait l'animal impropre à être un korban. Et bien entendu, le Midrash dit, quand l'Égyptien il entrait dans la maison du Juif, il demandait, qu'est-ce qu'il fait là, cet animal? Alors le Juif lui disait, ben dans 4 jours, on va en faire la shrita, on va le manger. Il faut vous imaginer, vous allez à Calcutta et vous achetez une vache, vous la mettez, vous l'attachez où vous voulez, et quand l'hindou de service viendra vous rendre visite et qu'il vous demandera mais qu'est-ce qu'elle fait la vache ici, vous allez lui dire, tu sais, dans 4 jours, on va tuer ta vache et on va la manger. Je pense que vous n'aurez pas le temps de finir la phrase. Semblablement. D'accord? Donc c'est une telle provocation, si vous voulez. Bon, c'est ce qu'Abraham a fait. Il est allé à l'encontre de toute l'idolâtrie de son temps. Il a manifesté que Hachem était Echad, que Hachem était un. Mais ça a manifesté que Hachem est un. Pourquoi est-ce qu'on nous, on mangerait pas aussi le Korban Pessah pour ça? Pourquoi nous, on a une autre raison? Alors, l'idée, c'est qu'on n'a pas vraiment une autre raison. Parce que, si vous voulez proclamer qu'Hachem est Echad, ça peut se faire aussi en proclamant que le peuple d'Hachem est Echad. Et vous savez probablement que la Gemara, elle demande, après avoir dit que Kadosh Baruch Hu, il met les tefilin, la Gemara demande qu'est-ce qui est écrit dans les tefilin d'Hachem. Dans les nôtres, une des 4 parchiotes qu'il y a dans les tefilin, c'est le Shema, c'est-à-dire la proclamation que Hachem est Echad, proclamation de l'unité, de l'unicité d'Hachem. Qu'est-ce qu'il y a dans les tefilin d'Hachem? Eh bien, la Gemara répond, eh bien, il est écrit dans les tefilin d'Hachem, « Mi ki amcha Israël goy echad ba'aretz ». On proclame l'unité, l'unicité du clan Israël. Et c'est la même chose. Parce que pourquoi, si vous voulez, le fait que le clan Israël soit un, ça vient de ce qu'il est le peuple d'Hachem. Et qu'il ne pourrait pas être le peuple d'Hachem s'il n'était pas un, s'il n'avait pas cette caractéristique. S'il était un peuple idolâtre ne peut pas être le peuple d'Hachem. Hachem est Echad, donc son peuple, il doit avoir cette caractéristique aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on le proclame pas? Eh bien, on le proclame pas parce qu'en réalité, on le dit d'une autre manière. On le dit dans la halakha. Je vous ai déjà expliqué que dans la halakha, les règles pour la fabrication et la consommation du Korban Pessah sont des règles qui tournent toutes autour du 1. C'est-à-dire la viande, elle doit être grillée à cœur. C'est-à-dire le plus fortement une, aussi compacte que possible. Les os, on n'a pas le droit de faire d'un os 2 os pour sucer la moelle. Et les gens qui vont manger le Korban Pessah, ils doivent d'abord former un groupe. Erev Pessah, avant de faire la shrita, il faut qu'un groupe se constitue. C'est ce groupe-là qui va manger l'agneau. Pourquoi est-ce que, entre autres, techniquement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se constituer en groupe? D'abord parce que c'est important, parce que ça fait du 1. C'est un groupe. Un os, c'est pas 2. Et la viande, aussi un que possible. Donc, nous, on proclame l'unité par la halakha. Et le fait que le peuple juif soit singulier, ben Hachem l'a manifesté en sautant par-dessus les maisons des Bnei Israël. Ces maisons étaient construites en plein milieu des maisons égyptiennes, comme on le voit par la suite quand on dit la voisine c'est une égyptienne, etc. Donc, Hachem va singulariser le peuple juif en tuant les premiers-nés égyptiens et le premier-né juif qui est à côté du premier-né égyptien, lui, il est épargné. Donc, ça montre bien que le clan Israël est un au sens, il est unique. Et c'est pour ça que nous sommes assimilables, jamais, nous sommes jamais assimilables. Le clan Israël ne peut pas vraiment s'assimiler. Et quand il essaie de s'assimiler, alors Hachem fait en sorte que le refus vienne de l'extérieur. C'est les goyim qui ne veulent pas de lui. Alors, si vous regardez le Korban Pessah que nous mangeons, vous savez bien qu'on mangeait, le Korban Pessah, c'est de la viande qu'on mangeait, mais ce n'était pas a priori le repas de la soirée de Pessah. Pour manger de la viande le soir de Pessah, on avait ce qu'on appelle une chagiga du 14. Le 14 Nissan, on faisait la shrita d'un korban qui était le korban de la fête. Il s'appelle le chagiga. Chag, c'est la fête. C'est le korban de la fête. Et c'est la viande qu'on mangeait le soir du seder. Et tout à la fin du seder, quand on avait pratiquement terminé de manger, où on était rassasié, et on pouvait encore manger un kezaït, la grosseur d'une olive de viande, eh bien, on mangeait la grosseur d'une olive de ce korban pessah. C'est ça qu'on mangeait à la sova, en étant déjà rassasié. Et puis, il y a une halakha qui dit que en maftirin achar pessah afikoman. Ça veut dire, après le korban pessah, il n'y a pas de dessert. Pas de dessert. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la halakha, on dit que on doit garder le goût du korban pessah dans la bouche. Si on prenait un dessert, le dessert allait effacer le goût du korban pessah. Alors le secret, c'est qu'il faut manger le dessert avant. D'accord. Donc, et maintenant nous, on n'a pas de korban pessah, mais on mange un morceau de matzah et on fait comme si cette matzah était, elle remplaçait, si vous voulez, le korban pessah. Et donc, après cet afikoman, après avoir mangé le morceau de matzah, on n'a pas non plus le droit de manger un dessert. On peut boire de l'eau, etc. Mais on ne peut pas manger quelque chose qui va enlever le goût de ce morceau de matzah. Alors, c'est très intéressant. C'est que le korban pessah, je vous ai dit, il fait référence à l'unité, à l'unicité d'Hachem. Eh bien, ce que nous dit cette halakha, c'est que il y a quelque chose qui se garde, qui s'exprime avec le goût. Or, le goût, si vous voulez, c'est quelque chose d'assez abstrait. C'est quelque chose qui est difficile, peut-être même totalement indicible. Vous voyez, on a la notion de goût, c'est quelque chose de particulier. Or, ça se dit beaucoup, par exemple, dans le vin. On dit, voilà, c'est un vin, il est long en bouche. Enfin, il y a toute une grammaire ou tout un lexique, etc. Quant au goût du vin, et qu'est-ce qui en reste, etc. Donc, en réalité, ce qu'on veut dire par là, je pense, c'est qu'en réalité, cette unité d'Hachem, elle ne peut pas se dire en mots. Alors, on va le dire par le biais du goût. Le goût du Korban Pessah. D'accord? C'est cette idée que, voilà, ce que représente le Korban Pessah, c'est l'unité. Et l'unité, en vérité, on ne peut pas la représenter. On n'a pas de représentation. On a, dans nos sens, il y a le goût qui, lui, pourrait nous aider à comprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est quelque chose qui... L'histoire du goût, c'est justement une façon, en quelque sorte, de dire que le qu'on peut rien dire, justement, on peut rien dire sur l'unité, on peut rien dire sur Hachem. Hachem le met, on peut rien dire du tout. Et notre façon de le dire sans le dire, de montrer qu'on peut pas le dire, mais que on le ressent, il y a quelque chose, on se sent proche d'Hachem, mais on peut pas le décrire, on peut pas décrire du tout la chose. Bon. Eh bien, c'est par le biais du goût. Le goût, ça peut pas se décrire. Ça ne peut pas vraiment se décrire. Il n'y a pas de mots pour vraiment le dire. C'est une expérience, si vous voulez. C'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Donc, vous voyez, tout dans la soirée de Pessah va être symbolique. On va donner du sens à chaque chose. D'accord? Alors, le sens, il y a des niveaux de sens. Je veux dire, on va dire l'unité d'Hachem, on la proclame en proclamant l'unité du clan Israël. Et si on regarde un peu plus profondément au niveau de la halakha, on va dire cette unité, on la proclame dans la halakha, dans la façon de manger, de préparer et de manger le korban pessah. Et puis si on veut aller encore plus loin, d'accord, parce que la halakha, elle se dit en mots. Si on veut aller encore plus loin, on peut dire qu'en vérité, on peut pas le dire en mots, mais on peut le dire en goût. Et donc, on va garder ce goût-là. D'ailleurs, c'est clair, n'est-ce pas? Même quand on parle du goût de la liberté, ça peut devenir un slogan, ça peut devenir, ça peut devenir une idole. Mais le goût de la liberté peut pas devenir une idole. Le goût, ça peut pas devenir un slogan ni une idole. Et c'est pour ça qu'on parle de ce, il y a une importance à ce goût. Cette dernière phrase de la Haggadah, En Martirin Achara Pessah Hapikoman, ce dernier enseignement, c'est l'enseignement qu'on donne à qui? On le donne au Chacham. Le Chacham, quand il pose des questions, dans le quatrième fils, là, celui-là, on lui dit, c'est pas le goût, ça. Vous, ça, c'est l'odorat. Je sais pas. C'est calme. Le problème, là, c'est un problème d'odorat, c'est pas un problème de goût. Bon, ça s'est privé. Voilà. C'est ça que je veux dire en passant. Mais c'est une chose très importante. Le problème, c'est toujours de donner du sens. Ce sera aussi notre problème par rapport à ce virus, à ce qui nous arrive, là. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez, vous, à vous représenter ce que ça veut dire. Il y a un tiers de l'humanité qui est confinée. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Un tiers de l'humanité confinée. À partir du moment où les Indiens, en Inde, on a décidé du confinement aussi. Donc, si vous imaginez qu'il y a une grande partie de l'Amérique, si maintenant on termine, toute l'Amérique va être confinée, bon, sauf que Trump ne voudra pas, donc bon, il y aura peut-être des États. Mais si l'Afrique aussi se met à être confinée, on aura le monde entier confiné. C'est impensable. Il faudra donner du sens à ça. Parce que ce sens-là, il va devoir nous accompagner. Le sens qu'on va donner, il va déterminer la conduite qu'on devra avoir après. Le sens qu'on a donné à la sortie d'Égypte, c'est la proclamation du nom d'Hachem. D'accord? Que c'est en même temps qu'on est sorti d'Égypte, il y a aussi l'émergence de la reconnaissance du nom divin. Et ça a changé, ça a bouleversé complètement la trajectoire, ça concernait le clan Israël en particulier. Mais là, le sens, il va bouleverser normalement, sauf si on est complètement tombé sur la tête, mais ça devrait bouleverser complètement, donner un autre sens à toute la vie qui va venir après. Pas simplement que ça sera différent. Ça dépend du sens qu'on va donner à ce qui nous est arrivé. Et à interpréter ce que ça veut bien vouloir dire que de devoir confiner le tiers de l'humanité. Peut-être que c'est même, ça sera peut-être plus que le tiers. Donc il s'agit du dévoilement, pour revenir à notre affaire. Dévoilement de ce nom divin là, qui n'avait jamais été dévoilé en tant que tel. Quand Moshe Rabbeinu a été envoyé par Hachem chez les Bnei Israël, il a dit à Hachem, mais si je viens leur dire, proposer de sortir d'Égypte, ils vont me demander, mais qui t'envoie? Qu'est-ce que je vais leur dire? Il y a un midrash qui dit que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, je sais très bien que c'est toi qui veux savoir mon nom. Tu fais comme si c'est eux qui doivent savoir mon nom, mais je sais bien que c'est toi qui veux savoir mon nom. Enfin bon. Alors, il lui a demandé, alors, quel est le nom? Qu'est-ce que je dois leur dire? Alors, il a dit, Hachem lui a dit, Eke Asher Eke. Je serai ce que je serai. Explication, traduction. Je serai avec vous dans les galoutes à venir, comme je suis avec vous dans ce galoute-là. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu vas aller leur annoncer. Surtout, vous faites pas de soucis, hein. C'est pas parce qu'on sort maintenant que vous auriez plus de galoutes après. On rassure tout de suite, il y aura encore d'autres galouillottes. Mais je serai aussi avec vous. Moshe Rabbeinu a dit, moi ça je peux pas vendre, hein. Ça c'est, je suis peut-être doué, mais ça je sais pas vendre. Vraiment une chose pareille, qu'est-ce que tu veux que je leur vende? Sortez, on va sortir d'Égypte, mais je vous rassure, il y en aura d'autres. Hachem l'a dit, t'as raison. Ne leur dis que, je serai avec vous. Dans ce galoute, là, je suis avec vous, je serai avec vous jusqu'au bout. En fait, Hachem a répondu, il lui a donné deux noms. Le nom Eke Asher Eke. Et puis, le tétragramme. Yudke Vavke. Et il lui a dit, Zeshmi Leolam, Zezichri Le Dorvador. Ceci est mon nom, toujours. Et c'est aussi mon souvenir, c'est-à-dire la façon dont on va me rappeler, on va me nommer, dans toutes les générations. Agmara fait remarquer, pour en tirer quelque chose, que dans le verset, il est dit « Zeshmi Leolam ». Ceci est mon nom pour l'éternité. Mais le « Olam », normalement, ça s'écrit avec un « Vav » après le « Ain ».« Ain Vav Lamed Mem »« Olam ». Or, dans la Torah, c'est écrit sans « Vav ». Donc ça se lit « Le Alam ». Et « Alam », ça veut dire « caché ». Ça veut dire que là, on apprend en particulier que ce nom, il doit rester caché, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de l'épeler. On peut pas le dire, ce nom. Le seul qui peut le dire, c'est le Kohen Gadol à Yom Kippour, il va le dire 10 fois, mais c'est le seul. Ça veut dire que dans le monde, Hachem est caché. Mon nom est caché dans le monde. Le monde nous cache un chef. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans la situation dans laquelle étaient les Bnei Israël, ça veut dire que la Touma de l'Égypte était tellement forte qu'elle rendait impossible le dévoilement du nom divin. Donc, ce nom divin-là, il ne pouvait pas se dévoiler autrement que lors de la sortie d'Égypte. Il faut sortir de l'Égypte, s'extraire de la Touma égyptienne pour que ce nom-là puisse se dévoiler. Donc, on peut considérer que l'Égypte doit être vue, si vous voulez, comme l'empêcheur du dévoilement du nom divin. Quand Moshe va chez Paro, c'est qu'il lui dit, Shlach et ami, envoie mon peuple via Avdouni pour qu'ils vont me servir. Alors Paro lui dit, Lo yadati et Hashem. Je ne connais pas Hashem. C'est un nom que je ne connais pas. J'ai consulté le vous des noms de Dieu. Des dieux, il n'y a pas. Je ne connais pas. Et d'ailleurs, je renverrai donc pas les Bnei Israël. Ici, on a affaire, dans cette réplique de Paro, on a affaire à l'expression de la Touma maximale de l'Égypte. Le nom, ce nom divin, le Roche et tous les Rishonim disent que c'est lui, le Shema Mforash. C'est lui, ce nom-là. Dans Yuma, elle discute. On dit que le Kohen Gadol, il va entrer dans le Kodesh HaKodashim et il va dire le nom, le Shema Mforash. C'est quoi le Shema Mforash? On discute. Et le Roche et d'autres Rishonim, quasiment la totalité des Rishonim disent que c'est justement ce tétragramme-là. Le tétragramme, c'est pas vraiment suffisant, parce que le tétragramme veut seulement dire qu'il y a quatre lettres. Mais dans Adon, il y a aussi que quatre lettres. Alef, Dalet, Nun, Yud, ça fait aussi quatre lettres. Donc, on veut dire le tétragramme, c'est vraiment Yud, Ke, Vav, Ke, bien sûr. Ce nom-là, c'est lui, le nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nom, il a une particularité. C'est que tous les noms divins, il y a beaucoup de noms divins, Elohim, Kachapai, comme on a dit, Achum, Hanun, etc., sont des noms divins. Ces noms divins correspondent à quelque chose. Ces noms correspondent, en quelque sorte, à une anahaga, à une façon de diriger le monde. Hachem adopte à certains moments et dans certains endroits. Il y a, et chacune de ces façons de diriger le monde a un nom, et un nom divin. Il y a un nom qui correspond au Chesed. Il y a un nom qui correspond au Din, très connu, c'est Elohim. Il y a un nom qui compte à toutes les midot d'Hachem. Alors, encore une fois, il ne faut pas se tromper, Hachem n'a pas de midot. Parce que sinon, ça reviendrait à dire quelque chose sur Hachem. Mais il y a des façons qu'a Hachem de gouverner le monde. Donc, pour nous, ce que nous en connaissons, c'est sa façon de gouverner le monde. Alors, on le nomme. D'après cette façon-là qu'il a de gouverner le monde, à ce moment-là et en ce lieu-là. Tous les noms divins sont dans cette situation-là. Sauf le tétragramme en question. Lui, il ne dit rien. Ce nom-là, en fait, lui, qui en fait, il dit la réalité. Il est la réalité elle-même. Il est l'existence même. Il donne l'existence parce qu'il est l'existence même. On a dit, l'impureté de l'Égypte, elle empêche le dévoilement de cette vraie réalité. Aujourd'hui, on est confronté au vrai, au faux, aux fake news, à des fausses réalités, etc. C'est pas que on ne vit pas dans la vraie réalité, mais ce qu'on veut dire, que la vie elle-même, l'existence même de l'Égypte, cette Égypte qui a servi le clan Israël, ne permet pas le dévoilement du tétragramme, c'est-à-dire le dévoilement de la vraie réalité. Pour qu'il y ait ce dévoilement, il a fallu les makotes, il a fallu frapper l'Égypte. C'est comme si on voulait casser cette barrière au dévoilement du nom d'Hachem. Et les conséquences de toutes ces makotes, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Ce n'est que là qu'Hachem va pouvoir se dévoiler. C'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Quand nous disons, encore une fois, quand nous disons que la sortie d'Égypte, en parlant de la sortie d'Égypte, elle s'est faite, l'Oalidé, Malar, Shliar, Saraf, etc. Elle a Kadosh Baruch Hu, Bichvodo, Ubatsmo. C'est Kadosh Baruch Hu lui-même qui nous a fait sortir d'Égypte. Et donc, la sortie d'Égypte, c'est cette manifestation d'Hachem. Mais dire que c'est Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est dire d'une certaine manière que nous ne pouvons pas savoir ce que c'est, ce qu'était réellement cette sortie d'Égypte. Puisque c'est Hachem lui-même qui le fait. Quand c'est Hachem lui-même qui fait les choses, tu peux pas le savoir. Tu peux pas savoir ce que c'est. Et d'ailleurs, c'est bien clair. Quand vous regardez la Agada de Pessah, si vous regardez cette Agada, vous verrez bien que la Agada, elle parle très clairement de ce qui se passait avant la sortie. Elle parle très clairement de ce qui s'est passé après la sortie. Mais à aucun moment, la Agada ne zoome sur la sortie elle-même. C'est un peu, voilà, les Bnei Israël étaient, à un moment donné, ils étaient de ce côté-là de la porte, si on peut parler comme ça, et puis après, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Mais comment ils ont passé, on n'en sait rien. On dirait les expériences d'interférence. On ne sait pas par où ça a passé. On a un peu, presque l'impression que les Bnei Israël, ils ont changé de monde pendant un certain temps, ils ont traversé la frontière dans l'autre monde, puis après ils sont redescendus dans le monde. Donc ça, ils étaient dans un autre monde. Si vous voulez, une image pour ceux à qui ça dit quelque chose. Imaginez, c'est un peu comme le passage au logarithme, où au lieu de faire une multiplication, on va faire une addition. Dans le monde où il faudrait faire la multiplication, c'est trop difficile à faire, eh bien, on va changer de monde, et dans ce monde-là, on pourra se contenter de faire une addition. Alors, on va faire l'addition, quand on aura le résultat, on va revenir dans l'autre monde. Comme si on était sorti dans un autre monde pour sortir, là-bas, c'était possible de sortir, on peut imaginer que tout un peuple va sortir, donc on n'est plus dans le même espace-temps. Bon, parce que, même concrètement, faire sortir le peuple juif, c'était, bon, même si on s'en est, bon, en tout cas, c'est sûr qu'en tout cas, si on s'en tient aux chiffres qui sont donnés, à savoir, 600 000, mais 600 000, c'est les gens, les hommes entre 20 et 50. Donc, si vous mettez là, en plus, les femmes, les enfants, et les plus jeunes et les plus vieux, vous avez tranquillement 3 millions de personnes. Sortir 3 millions de personnes. Avec, chacun avait, comme on dit, 10 ânes libyens, etc., chargés jusque, pas possible, etc. Et en fait, tout ça, tout ce monde-là est sorti. Alors, ça devrait prendre, avec l'armée américaine, ou peut-être pas, ou l'armée chinoise, ça doit quand même prendre quelques jours. Nous, on est sorti en quelques heures. Donc évidemment, on n'est pas sorti par les moyens ordinaires, c'est ça qu'on a dit. Tu peux pas t'imaginer comment on est sorti, mais on est sorti. Et ça s'appelle sortir avec Hachem. Quand Hachem fait, ben, il fait pas ça comme tout le monde. Et donc évidemment, les choses, elles sont pas explicables par les moyens habituels. C'est ça ce qui se passe avec ce nom divin là. Chachamim sur le pasouk de Shir HaShirim, où elle dit Pitrili, où il dit pardon, Pitrili Achoti, ouvre-moi ma sœur, Rayati, ma famille, Yonati ma colombe, tamati ma parfaite. Sur ce mot, tamati, tav mem, tav yud, Rahamim ont fait une dracha, ils ont dit, au lieu de tamati, je vais lire teomati, c'est-à-dire après le tav, avant le mem, je vais mettre aleph vav, teomati. Teomati, ça veut dire ma jumelle. Et les Chachamim disent, ça veut dire, lo ani gadol mimena, velo higdola mimeni. C'est la notion de jumelle. Elle n'est pas plus grande que moi, et moi je ne suis pas plus grand qu'elle. C'est-à-dire, c'est le dialogue entre Hachem et Klal Israël. Donc Hachem dit, je ne suis pas plus grand qu'elle, elle n'est pas plus grande que moi. Voilà, évidemment, il s'agira de comprendre, mais en tout cas, il y a cette équivalence, justement, qui est un peu l'équivalence dont je vous ai parlé quand on a parlé de passer par-dessus les maisons pour manifester l'unité du clan Israël, l'unicité du clan Israël, comme on manifeste l'unicité de la Kadosh Baruch Hu. C'est notre façon à nous, dans un autre niveau de pouvoir parler de l'unité et de l'unicité de la chair. C'est de regarder l'unité et l'unicité du clan Israël. Alors, maintenant, si, concrètement, si on va y regarder d'un peu plus près, que le clan Israël soit unique, ça pose pas tellement de questions. On voit très bien qu'on est homogène à rien du tout. Bon, on n'est pas un peuple comme les autres. Ça, on a beau essayer de faire, ça marche pas. Bon, on fait tout ce qu'on peut, mais ça marche pas. Mais comment est-ce que on peut comprendre que le clan Israël est aussi un? Quel lien a-t-il? Comment est-ce qu'on comprend cette unité qu'il y aurait entre prenez un juif yéménite et un juif finlandais ou un juif du Canada et un juif de Nouvelle-Zélande, etc. Et puis, il y a des juifs partout, mais ils n'ont rien de commun. Comme si, ils ont en commun qu'ils sont juifs. Donc, si tu veux essayer de dire ce que c'est que d'être juif, sauf à dire, c'est de reconnaître les valeurs de la Torah, mais on voit bien que c'est pas ça, puisqu'il y a plein de juifs qui sont indiscutablement juifs, mais ils ont en tout cas pour ce qu'ils en disent et pour ce qu'ils en pratiquent, ils ne reconnaissent pas les valeurs de la Torah. Ils sont indiscutablement juifs. Donc, si on essaie de dire qu'est-ce que c'est qu'un juif, on est coincé. Donc, c'est quoi cette unité-là? L'unité que Esther a réalisée quand elle a donné l'ordre à Mordechai, l'Ech Knos, rassemble tous les juifs. On les rassemblait en un moment, mais c'est quoi? C'est d'abord tous les juifs de Shushan. C'est pas des juifs du bout du monde. C'est des gens qui ont en commun d'habiter Shushan. Alors, même s'ils viennent pas tous du même village, même s'ils sont pas tous nés à Shushan, enfin, ils ont quand même le fait qu'ils vivent ensemble. Et puis, qu'est-ce que c'est leur unité? C'est qu'ils vont tous jeûner le même jour. Ils vont crier, pleurer, etc., supplier et jeûner le même jour. Bon, c'est ça l'unité que Esther a obtenue. Mais c'est une unité fondamentale parce que s'il n'y avait pas cette unité, elle ne pouvait pas venir et réclamer quelque chose pour son peuple. Quand elle dit à Achvéroch, elle lui dit, je viens demander Nafshi Bechelati, je viens demander ma vie, quoi. Et la vie de mon peuple, il n'y a pas de peuple. Qu'est-ce qu'a dit Haman? Il n'y a pas de peuple. Ils sont complètement dispersés. Il y en a un ici, un autre là-bas, etc. D'ailleurs, on n'a aucun mal à les détruire. Parce que personne ne le remarquera. On va détruire des individus. Ils ne sont pas unis. Ils ne se sentent pas unis. C'est une des choses que s'est passée, effectivement, cette non-unité. Pendant la Deuxième Guerre. Non, ça veut dire que le mauvais génie, enfin, les nazis, ça a été de ne pas laisser les juifs se regrouper, plus exactement. Les juifs ont fait le travail, ils ne se sont pas regroupés. Là, quand ils ont commencé à faire du mal aux juifs de l'Europe de l'Est, les juifs allemands ont dit, on n'a rien à voir avec ces pouilleux. Tout, ça ne nous concerne pas. Après, on s'est occupé d'eux. Après, ils sont enfuis en France, les Français ont dit, mais on n'a rien à voir avec ces juifs allemands. Et les Suisses, ils ont dit, ben non, on peut pas, le bateau est plein, das Boot ist voll, etc. Et les juifs américains, ils disent, non, il faut pas déranger Roosevelt, etc. Il y a les forts de guerre, etc. C'est les juifs eux-mêmes. Les juifs eux-mêmes, ils ont pas agi. Je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire, je ne suis pas en train d'essayer de réécrire l'histoire. Mais a priori, les choses n'auraient pas été si faciles. A priori, si les juifs avaient été unis. Pas seulement parce que concrètement ça aurait été difficile, mais parce que, ça c'est mon émouna, que si les juifs avaient vraiment été juifs, le peuple juif, ils n'auraient rien pu faire du tout. C'est vraiment le peuple. Si on avait été plus unis, pas encore complètement le peuple, mais plus unis, il y aurait plus de mal. Et si on avait vraiment été totalement unis, c'est sûr qu'il n'aurait rien pu faire du tout. Klal Israël, quand il est Klal Israël, il n'est pas destructible, on ne peut pas rien lui faire. Sur ce verset, donc, Akadosh Baruch Hu dit, en fait, le clan d'Israël, c'est ma jumelle. Dans la prophétie d'Yéhezkel, il a dit Yéhezkel, quand il parle de la sortie d'Égypte, il la présente comme une Leda, comme une naissance. C'est-à-dire, dans cette nevoie, dans cette prophétie d'Yéhezkel, il est mentionné que lors de cette naissance du clan d'Israël, tout ce qu'on fait d'ordinaire à la naissance d'un bébé n'a pas été fait. On n'a pas donné son bain, on ne s'est pas occupé de lui comme on doit s'occuper. Enfin, on n'a pas regardé qu'il respirait bien, on ne s'est occupé de rien du tout. Mais dans la suite, il est dit, ce verset qu'on dit en toute Mila, je me dis, va-evor alaïr, j'ai passé au-dessus de toi, va-erer, et je t'ai vu, mitbotseset bedamaïr, tu te retournais dans ton sang, va-marlach, et je t'ai dit, bedamaïr hayi, vis, dans ton sang ou par ton sang. Va'amarlach bedamayich chayi. Il dit deux fois. C'est le pasouk. Ce pasouk-là, il joue un rôle fondamental. Bien sûr, il est mentionné à toute Mila, mais il joue un rôle fondamental dans la sortie d'Égypte. Les Bnei Israël, au moment où Hachem a voulu les sortir d'Égypte, les Bnei Israël n'avaient pas de mérite. Et c'est comme dans un processus de bénédiction. Enfin, la bénédiction, c'est une multiplication. Et si vous avez encore quelques souvenirs du cours d'arithmétique, je sais pas quoi, quand on multiplie n'importe quoi par zéro, ça donne toujours zéro. C'est une des raisons pour lesquelles on fait le Birkat Hamazon. On doit laisser sur la table un peu de pain. Comme ça, la bracha, elle se saisit de ce pain, elle le multiplie. Et s'il n'y a rien du tout, on ne peut pas multiplier. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de bracha possible. Donc il faut, effectivement, il faut qu'il y ait quelque chose. Et donc pour sortir les Bnei Israël d'Égypte, même si c'est Hachem qui va faire tout le job, il fallait que les Bnei Israël aient un mérite. Ils n'en avaient pas. Et ils n'étaient pas capables d'en fabriquer un de toutes pièces. Alors Hachem leur a donné la possibilité d'acquérir un mérite. Il leur a donné deux mitzvot. Deux mitzvot tout à fait particulières. Je vais expliquer un peu en quoi elles sont particulières. Lorsqu'Abraham Avinu s'est tenu devant Nimrod, et qu'il lui a fait part de ce que lui, Abraham, il va devenir un grand peuple, etc. Alors Nimrod lui a dit, soyons sérieux, regarde, les astrologues chaldéens, ils disent que tu pourras même pas avoir un seul enfant. Alors quand tu as peur de toi un grand peuple, on n'en parle même pas. Et Hachem a confirmé cela. Il a confirmé qu'effectivement, Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Hachem lui a dit, il y a un midrash qui dit comme ça. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il a pris Abraham et il l'a mis au-dessus des mazalot et des étoiles. Il l'a mis au-dessus des étoiles. Il lui a dit, tu peux marcher sur les étoiles. Ça veut dire, tu peux sortir de ton déterminisme astral. Et à ce moment-là, les choses sont changées. C'est un autre monde. Mais il faut faire quelque chose pour sortir. Alors pour sortir, il faut que tu fasses la mila. Tu vas changer ton corps d'une certaine manière. Alors, on considère que c'est pas que le corps était imparfait avant. C'est que il y a dans le corps des éléments qui peuvent faire justement une chatzitsa, comme on a vu dans le cours précédent, c'est-à-dire qui font écran. Il y a ce qu'on appelle orlat alev. C'est-à-dire il y a comme quelque chose, comme une enveloppe du cœur qui empêche d'accéder au cœur. Il y a une enveloppe de l'oreille qui empêche d'accéder à l'oreille. Il y a aussi la fameuse enveloppe qui empêche quelque chose, je sais pas exactement comment est-ce qu'il faut le décrire, qui est cette membrane qu'il va falloir enlever, cette partie de cette peau, qu'il va falloir enlever lors de l'acte de la Mila. Donc il va falloir faire un changement. Faire quelque chose. Alors, il lui a dit, si tu fais ça, alors ton nom aussi va changer. De changer ton nom. Au lieu d'être Avram, tu vas devenir Abraham. Et Abraham, il peut avoir un enfant. Abraham, il peut pas. Mais Abraham, il peut avoir un enfant. Il en a eu un, effectivement. Il en a eu un qui a été validé comme l'enfant à partir duquel le peuple d'Abraham va pouvoir se construire. Il a eu deux enfants, bien sûr, mais puis ensuite d'autres, avec a priori, avec après la Akeda. Mais voilà. Tant qu'il était Abraham, il pouvait pas. Mais on lui a dit que tu es pas dépendant vraiment du mazal des planètes, des configurations astrales, etc. Il y a une dépendance, mais tu peux t'en libérer. Quand Moshe Rabbeinu s'est tenu devant Paro et qu'il lui a dit « Laisse sortir le peuple pour qu'il vienne servir Hachem », Paro lui a dit « Mais de quoi tu parles ? » Les astrologues égyptiens montrent que le thème astral du peuple juif, dans ce thème astral, il y a la fameuse planète qui s'appelle Ra'a, qui est une planète rouge, disons, qui est le sang qui indique la mort. Donc, si vous sortez d'Égypte, vous allez mourir. Donc à la limite, moi tu peux sortir, mais vous allez mourir, c'est pas raisonnable. Alors effectivement, les Bnei Israël avaient besoin de faire quelque chose. Alors ce qui est remarquable, c'est que la mort qui est à l'horizon chez Abraham, qui est à l'horizon du peuple juif avant qu'il ne sorte d'Égypte, bon. Elle est toujours dite en termes de sang. C'est le sang. Le sang de la mort, c'est le sang qui, quand il est versé, entraîne la mort. Le Gaon de Vilna dit que si quelqu'un naît sous un mazal ma'adim, c'est-à-dire sous un signe un peu du sang, de rouge, alors il ne peut pas sortir de cette détermination-là. Mais à l'intérieur de cette détermination-là, il y a tout l'éventail qui va de l'assassin au Moël, en passant par le chirurgien, par le chauffette, etc. Voilà, celui par l'infirmière qui va prélever du sang pour les analyses, etc. L'infirmier. Et tout l'éventail est là, du plus négatif au plus positif. Donc les Bnei Israël ont à voir avec le sang. Et par conséquent, puisque c'est ça leur problème, la mitzvah essentielle pour eux doit être une mitzvah qui a à voir avec le sang. Et donc, les deux mitzvot, en réalité, l'un a donné deux. Les deux mitzvot qui ont été données au Bnei Israël pour sortir d'Égypte, c'est la Mila et c'est le Korban Pessah. Dans les deux cas, il y a du sang qui coule. La Mila, c'était déjà ce qui avait été donné, comme je vous ai dit, à Avraham Avinu pour s'en sortir. Et Moshe Rabbeinu reprend ça, Hachem reprend ça dans le cadre égyptien, et il y ajoute le sang du Korban Pessah. Alors, avec le sang, dans tous les Korbanot, il y a une avoda, c'est elle qui apporte la kapara. La fameuse aspersion du sang qu'on a recueilli au moment de la Shrita. On asperge sur le misbéar, sur l'autel, ou bien sur le parochet, sur le rideau qui est entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, on envoie des gouttelettes. Et c'est cette procédure-là qu'elle amène la kapara. Les Bnei Israël en Égypte, ils vont faire la Shrita, le Korban Pessah, mais évidemment il n'y a pas de misbéar, et ce qui va remplacer l'aspersion des gouttelettes sur le misbéar, par exemple, ça va être le badigeon du dam, de la shrita, du Korban Pessah, sur les poteaux et les linteaux des maisons. Pour protéger les Bnei Israël, pas tellement parce que sinon, etc., mais pour qu'ils sachent pourquoi ils donnent du sens au fait d'avoir été épargnés. Il faut qu'ils comprennent pourquoi ils sont épargnés. Ils sont épargnés parce que ils sont entrés dans le monde de l'obéissance aux lois d'Akadosh Baruch Hu. Les deux mitzvot qui sont données sont deux mitzvot positives. Il n'y a pas de mitzvah négative ici qui est donnée. Le mérite, c'est les mitzvot positives. Korban Pessah et Dam Mila. Bnei Israël avait cessé de faire la Mila à la mort de Yosef. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a dû refaire la Mila de tout le monde pour pouvoir sortir d'Égypte. Parce que si on n'avait pas fait la Mila, on ne pouvait pas manger le Korban Pessah. Si on ne pouvait pas manger le Korban Pessah, on ne sortait pas. Donc, il est resté de cette Leda, c'est une naissance. Et avec, on n'a pas fait ce qu'il fallait avec le sang de la naissance, si vous voulez, avec le placenta et tout, mais la Torah nous a dit ce qu'il fallait en faire. Voilà. Il faut faire quelque chose pour pouvoir sortir d'Égypte. Au moment de cette naissance, il va falloir travailler quand même ce sang et faire la démarche d'Abraham plus une démarche spécifique de la sortie d'Égypte. On va s'arrêter là, je continuerai la prochaine fois. Voilà.
Grave.